Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire d'une sextape qui a failli briser la carrière internationale de l'un des plus grands footballeurs français, Karim Benzema. Un énième scandale dans le foot français après le fiasco de la grève des Bleus pendant la Coupe du Monde 2010 et l'affaire Zaïa. Cette histoire, sextape, c'est un chantage sordide devenu au fil des semaines l'affaire Benzema. À moins de 6 mois de l'Euro 2016 organisé en France, le footballeur s'est retrouvé accusé de complicité avec des maîtres chanteurs qui ont tenté d'extorquer de l'argent à un autre joueur de l'équipe de France, Mathieu Valbuena. Depuis la première diffusion de cette histoire dans Affaires Sensibles, le procès de cette affaire a eu lieu en octobre dernier. Le parquet a requis 10 mois de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende. Le jugement sera rendu le 24 novembre. Quoi qu'il en soit, et après un peu plus de 5 ans de mise à l'écart, Benzema a retrouvé le maillot bleu le 2 juin 2021. Un vrai moment de bonheur pour lui, même si les Français ont été carrément minables pendant l'Euro. Mais ils se sont rattrapés, toujours avec Benzema, en allant gagner brillamment la Ligue des Nations en Italie il y a un mois. Benzema possède désormais le plus grand palmarès en club de l'histoire pour un joueur français. 4 Ligues des Champions, il brille au Real Madrid. Il est aujourd'hui l'un des 4 meilleurs attaquants de pointe, on peut le dire je crois, avec Mbappé, Haaland et Lewandowski. Revenons ici sur l'affaire des sextapes qui a fait couler beaucoup d'encre et qui n'a pas répondu à toutes les questions qu'on peut se poser encore. Karim Benzema a-t-il été victime d'un délit de sale gueule, par exemple? Quel rôle a joué son entourage? Notre invité aujourd'hui, Rémi Dupré, journaliste au Monde. Après 10 ans passés au service des sports, il est maintenant au service investigation des infos jeunes du grand quotidien du soir. Et il a suivi le procès des sextapes. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA. Récit documentaire Adrien Mora, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet et Marion Lelay.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Mardi 6 décembre, Stade Gerland à Lyon. Le jeune Karim Benzema est ému et pour cause, il s'apprête à disputer son premier match de Ligue des Champions. C'est la 6e et dernière journée des phases de poule. L'Olympique Lyonnais est donc déjà qualifié pour les 8e de finale. Ce soir-là, l'OL affronte les Norvégiens de Rosenborg, assez décontracté finalement. Gérard Houllier, l'entraîneur, décide de plonger dans le grand bain européen 2 jeunes joueurs prometteurs, 2 futurs bleus, 2 complices du but qui ont notamment remporté le championnat d'Europe des moins de 17 ans face à l'Espagne 1 an et demi plus tôt. Ils s'appellent Ben Arfa et Karim Benzema. La fameuse génération qui promet tant avec Samir Nasri et Jérémy Ménez. Les 4 fantastiques comme on les surnommera un temps seulement. À la 33e minute, le numéro 9 lyonnais John Carew déborde sur le côté droit, dribble un joueur, puis 2 fonce vers le but et centre en retrait, l'arme fatale au foot. Et le numéro 19 reprend du pied droit, le gardien n'a aucune chance.
Derrière but !
Oh là là !
Et but !
Super !
De Benzema ! Le voilà, son premier but chez les pros ! Que c'est beau ! L'action de John Carew, une merveille ! Oh là là. Et le but de Benzema, Bernard !
Karim Benzema devient le plus jeune buteur français de l'histoire de la Ligue des Champions. À 17 ans et 352 jours, il est encore aujourd'hui devant Kylian Mbappé. En tout cas, c'est le début d'une longue carrière prometteuse pour le jeune natif de Bron, dans la banlieue lyonnaise. Très vite, il s'invite régulièrement dans le 11 de l'Olympique lyonnais, l'équipe française qui à l'époque domine le championnat français de la tête et des épaules. Les portes de l'équipe de France s'ouvrent à lui, logique. Mais une autre sélection lorgne sur le jeune crack. C'est le pays de ses parents, de ses origines, l'Algérie. Le sélectionneur des Fenech, Jean-Michel Cavalli, se rend à Lyon pour convaincre Karim Benzema de jouer avec l'Algérie. Mais le jeune lyonnais a fait son choix. Ce sera l'équipe de France. Il se confie dans une interview RMC.
La sélection algérienne, est-ce que pour toi c'est possible ou c'est plus possible la sélection française?
Tout à l'heure, c'est vrai que j'ai une discussion avec que ce soit le président ou l'entraîneur, on a bien parlé. Maintenant, moi, je dis l'Algérie, c'est le pays de mes parents, c'est dans le cœur. Mais bon, après, sportivement, c'est vrai que je jouerai en équipe de France, quoi. Là, toujours présent pour l'équipe de France.
Aujourd'hui encore, Karim Benzema traîne cette interview comme un boulet. On reproche en effet au jeune homme âgé de 18 ans, à l'époque, les raisons de son choix. Pas pour la France, non, pour le maillot bleu sous lequel on peut décrocher les plus grands titres. Bref, c'est juste un choix sportif. Mais avec Karim Benzema, le talent étouffe toutes les critiques. Lors de sa première apparition avec les Bleus le 28 mars 2007 face à l'Autriche, il ne faut que 7 minutes à l'attaquant lyonnais pour inscrire son premier but sur une passe d'un autre prometteur, Samir Nasri. Deux ans plus tard, il quitte son club formateur, l'Olympique Lyonnais, avec dans les bagages 4 titres de champion de France et une Coupe de France, pas mal, pour un joueur de 21 ans. Courtisé par Manchester United, le jeune Lyonnais prend finalement la direction du club de ses rêves, le Real Madrid. Montant du transfert, 35 millions d'euros. Salaire annuel, plus de 6 millions par an. Lorsque Karim Benzema débarque dans la capitale espagnole, il est présenté aux sociaux madrilènes. Ils sont près de 20 000 à s'être rassemblés dans le stade Santiago Bernabéu pour écouter les premiers mots en espagnol du jeune Français. Très réservé, pas fan des prises de parole en public, Benzema répète son discours la veille avec son frère dans la chambre d'hôtel. Et le lendemain, il fait face à la foule.
Soy muy contento de jugar en el club, en el mismo club de mis ídolos Zidane et Ronaldo. Un, dos, tres. À la Madrid!
Malgré le montant du transfert et le talent de Karim Benzema, le Lyonnais reste dans l'ombre des autres recrues du Mercato XXL réalisé par le club de Madrid à l'été 2009. De retour à la présidence du club, Florentino Pérez n'a pas cassé la tirelire, il l'a explosé. 257 millions d'euros dépensés pour lancer une nouvelle ère galactique au Real. Il recrute notamment les deux derniers ballons d'or, Cristiano Ronaldo, en provenance de Manchester United, et Kaka, qui lui arrive du Milan AC. Karim Benzema met du temps à s'imposer dans cette équipe de stars, avec la concurrence notamment, et encore, du franco-argentin Gonzalo Higuain, une star de la Juve, Juventus de Turin, aujourd'hui. À l'été 2010, Raymond Domenech ne sélectionne pas le jeune Français pour la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Ah, 2010. Knysna, la grève du bus, l'image désastreuse donnée par les Bleus après une compétition manquée. Alors on pense souvent que Karim Benzema faisait partie de cette triste aventure. Eh bien non. Mais seulement un mois après le fiasco du Mondial 2010, une nouvelle affaire agite le monde du football français. Une histoire de prostitution. L'affaire Zaya, du prénom de cette escort girl qui affirme avoir eu des relations sexuelles avec des footballeurs de premier plan, parmi eux Franck Ribéry et Karim Benzema. Voilà, du foot, de l'argent, de la prostitution, rien de très nouveau. Sauf que Zaya était mineure au moment des faits. Et là, c'est une autre histoire. Alors la justice française s'intéresse de près aux deux clients présumés. Mais Karim Benzema est formel, il n'a pas eu de relation avec Zaya. Quant à Franck Ribéry, il ignorait son âge, 17 ans. Mais les deux joueurs sont mis en examen pour sollicitation de prostituées mineures. L'ombre de l'affaire Zaya va planer au-dessus des deux joueurs de l'équipe de France pendant plus de 3 ans et demi. Le 30 janvier 2014, le tribunal correctionnel relaxe Franck Ribéry et Karim Benzema. Sylvain Cormier, l'avocat de l'attaquant du Real Madrid, réagit au micro de France Inter.
C'est très venimeux, cette une instruction, d'être accusé de quelque chose que vous n'avez pas commis. C'est épuisant, c'est moralement extrêmement éprouvant. Mais ça n'a pas détruit sa carrière, parce que Karim est quelqu'un d'opiniâtre, d'endurant, et qui a supporté cette épreuve en faisant face à ses obligations professionnelles jusqu'au dernier moment.
Cela n'a pas détruit sa carrière, non, en effet, depuis le début de l'affaire Zaya, en juillet 2010, Karim Benzema s'est imposé au Real, tranquille. Après avoir subi les pics de l'entraîneur José Mourinho, qui avait notamment comparé l'attaquant à un chat, Karim s'est endurci et s'est imposé comme titulaire après le départ de Gonzalo Higuain et l'arrivée de l'entraîneur Carlo Ancelotti. Côté équipe de France, il revient dès l'automne 2010 avec le nouveau sélectionneur Laurent Blanc. Après une prestation, disons, moyenne à l'Euro 2012, il est de nouveau installé à la pointe de l'attaque par Didier Deschamps. Karim Benzema connaît une très longue période sans marquer, 1222 minutes. 15 matchs, ça la fout mal pour un buteur. Mais Deschamps le soutient, coûte que coûte. Et le 11 octobre 2013, Benzema inscrit le 6e but de la France face à l'Australie. Il a vaincu le signe indien sous le maillot bleu. Le public du Parc des Princes chambre le joueur en criant « Il a marqué, il a marqué !» Alors l'attaquant lève le pouce et applaudit les spectateurs. Chose rare, il esquisse même un petit sourire. Karim Benzema, à qui l'on reproche son visage fermé, renoue avec les supporters tricolores. Un peu plus d'un mois plus tard, il fait carrément chavirer le Stade de France. Ce 19 novembre 2013, les Bleus affrontent l'Ukraine dans un match de barrage qualificatif pour la Coupe du Monde. Défait à l'aller 2-0, les Bleus doivent gagner par 3 buts d'écart pour obtenir un billet pour la Coupe du Monde 2014 qui se déroulera dans la patrie emblématique du ballon rond, le Brésil. À la 34e minute, Karim Benzema donne espoir à tout un peuple en inscrivant le but du 2-0. Après le troisième but français, tout le monde peut souffler. Les Bleus iront bien au Brésil pour la prochaine Coupe du Monde. À la fin de la rencontre, Karim Benzema s'empare du drapeau tricolore et le brandit. Mais on ne retient pas cette image, non. On préfère souligner qu'il ne chante jamais la Marseillaise. Alors qu'il n'est pas le seul dans l'histoire. Michel Platini, par exemple, ne l'a jamais chanté. Lui non plus. Il s'est d'ailleurs exprimé sur ce sujet en 2018 sur France 2.
S'ils étaient blancs qui chantaient pas, ça posait pas un problème. S'ils étaient un peu de couleur et qui chantaient pas, ça posait un problème. C'était un problème, c'est honteux, quoi. Honteux. Moi, j'ai jamais chanté. Et j'ai dit pourquoi je ne chantais pas. Parce que c'est un hymne guerrier. Moi, j'allais jouer au football. Si j'allais à la guerre, j'aurais peut-être chanté. Et jouer au football, je ne chantais pas.
2014 s'annonce comme une belle année pour Benzema. En janvier, nous l'avons dit, il est relaxé dans l'affaire Zaya. En février, il devient papa de la petite Mélia. En mai, il remporte la Ligue des Champions avec le Real Madrid. L'un de ses plus grands rêves devient réalité. Le mois suivant, il en réalise un autre, jouer une Coupe du Monde, qui plus est au Brésil, le pays de son idole de jeunesse, Ronaldo. Pas celui de la Juventus, hein, l'autre. Lors des matchs de poule, il fait sensation, 3 buts et 2 passes décisives. Malheureusement, les règles du foot sont simples. C'est un jeu qui se joue à 11 dans chaque équipe et à la fin, ce sont les Allemands qui gagnent. Et ben, ça n'a pas manqué. Comme souvent, les Allemands cassaient le rêve français en quart de finale sur le plus petit des scores, 1-0. Du côté de Karim Benzema, c'est la déception. La presse lui reproche ses prestations face à l'Allemagne. Le lendemain, le journal L'Équipe lui attribue la note de 3 sur 10. Du côté de ses proches, c'est la colère qui l'emporte. Son entourage, c'est notamment 2 autres Karim, Djaziri et Zenati. Karim Djaziri, c'est l'agent de Benzema. Il s'occupe des contrats et des relations avec la presse. Zenati, lui, c'est un ami d'enfance, un caïd condamné à plusieurs années de prison pour un braquage et un go-fast qui transportait 200 kilos de cannabis. De retour à Ribeirão Preto, la ville où les Bleus ont pris leur quartier au Brésil, les deux Karim, Djaziri et Zenati, font le tour des boîtes de nuit de la ville à la recherche des journalistes de l'équipe. Lorsqu'ils les croisent, le ton monte, les esprits s'échauffent et les deux hommes frappent un reporter. Et ça, la presse française ne l'oubliera pas. D'autant qu'en novembre 2015, l'affaire de la sextape éclate dans les médias.
Du sexe, de l'argent, du foot et un joueur star mis en examen.
Le plus capé de l'équipe nationale.
Karim Benzema.
La mise en examen de Karim Benzema.
Une affaire crapuleuse qui mêle l'argent et l'intimité.
Pour complicité de tentative de chantage contre Mathieu Valbuena.
Le monde du football est donc en pleine tempête.
Karim Benzema, star mondial du foot, passe la nuit en garde à vue. La nouvelle fait sensation. Tous les ingrédients sont réunis, sexe, foot et chantage. Comment en est-on arrivé là ? Septembre 2014, Axel Angot, le monsieur informatique de nombreux footballeurs professionnels, est chargé par Mathieu Valbuena de transférer des données de son téléphone portable vers un nouveau smartphone. Lors de la manipulation, Angot tombe sur plusieurs vidéos et photos intimes du joueur. Il les stocke sur un disque dur, ça peut toujours servir. Il confie sa découverte à Mustapha Zouaoui, surnommé Sata. Lui, c'est plutôt le concierge de luxe de nombreux joueurs. Depuis des années, il leur déniche les derniers objets à la mode, gère les déménagements et autres tracas de la vie quotidienne. Les deux hommes font des affaires lucratives, mais ils contractent aussi des dettes. Début 2015, ils doivent rembourser 25 000 euros pour une histoire d'achat de montre. Un coup qui a foiré, mais la dette, elle, est bien réelle. l'idée du chantage à la sextape germe alors dans leur esprit. D'abord, ils imaginent demander 1 million d'euros à Val Buena. Bien, mais comment l'approcher ? Les deux maîtres chanteurs connaissent le joueur, mais il faut avancer masqué et trouver un intermédiaire. Première tentative, Djibril Cissé. Ango et Satan le connaissent bien, et Cissé connaît Val Buena. Les deux malfaiteurs appellent Djibril Cissé le 9 mai 2015 et lui envoient des captures d'écran de la sextape. L'ancien joueur de l'Olympique de Marseille informe Val Buena qu'une vidéo intime de lui circule. Conseil amical ? Peut-être. Cissé avait lui-même été victime d'un chantage à la sextape quelques années plus tôt et il avait payé. La piste Cissé n'est pas fructueuse pour les maîtres chanteurs. Il décide alors d'utiliser la méthode du corbeau. Il contacte Younes Ouas, qui vient un temps a fait chauffeur pour des footballeurs, mais qui vit désormais du RSA. Et il accepte sans sourciller. Lors d'un rassemblement des Bleus à Clairefontaine, Mathieu Valbena reçoit un appel. C'est le corbeau. Il lui parle de la sextape. Le joueur de l'équipe de France fait durer l'appel et se presse dans les couloirs pour aller à la rencontre de l'officier de police chargé de la sécurité de l'équipe. Lorsqu'il le trouve, il met le téléphone sur haut-parleur. Pour l'officier de police, pas de doute, c'est une tentative d'extorsion. Val Buena porte plainte et la police charge un agent sous couverture de jouer l'intermédiaire. C'est donc lui qui va traiter avec les maîtres chanteurs. Mais Sata et Ango sont impatients. La piste du corbeau n'aboutit à rien et ils soupçonnent le nouvel intermédiaire d'être un policier. Ils pensent alors à une troisième piste pour convaincre Mathieu Val Buena de payer. En août 2015, Sata, qui connaît Karim Zenati, le meilleur ami de Benzema, est introduit lors d'un déjeuner auprès de la star madrilène. C'est l'entrée en jeu de Benzema dans l'affaire. Mais pourquoi accepte-t-il de jouer l'intermédiaire ? Une chose est certaine, le footballeur est multimillionnaire, ce n'est pas une question d'argent. Alors, veut-il prévenir Mathieu Val Buena qu'une vidéo circule ? Comme Djibril Cissé, Benzema avait lui aussi été victime de chantage au printemps 2011. Karim Jaziri explique comment lui et l'avocat de Benzema avaient réglé l'affaire.
On a porté plainte, car on voulait donner une leçon au maître chanteur et prévenir les prochains. Ceux qui auraient l'idée de tenter leur chance de profiter de la notoriété de Karim pour se faire de l'argent. Sur ces photos, on ne voyait absolument rien, simplement Karim et son ami du moment, au restaurant, dans une voiture. Son ami était juste mineur. Et les maîtres chanteurs espéraient récupérer de l'argent avec ça. Ils avaient même commencé à appeler les journaux espagnols pour essayer de les vendre.
Début octobre 2015, les joueurs tricolores se rassemblent à Clairefontaine, au cœur de la forêt de Rambouillet. Calme et paisible, c'est l'endroit idéal pour préparer sereinement les deux prochains matchs, face à l'Arménie et au Danemark. Pas de pression, ce sont juste des matchs amicaux. Les Bleus sont qualifiés d'office pour l'Euro 2016, organisé en France. Les policiers qui ont mis sur écoute les maîtres chanteurs préviennent alors Mathieu Val Buena. Un joueur de l'équipe de France va l'approcher pour lui parler de la sextape. Mais Val Buena tombe des nues quand c'est Karim Benzema qui vient lui dire « Matt, faut que je te parle, c'est important. » Le lendemain, mardi 6 octobre, Mathieu Val Buena frappe à la porte de la chambre de Karim Benzema. Juste après le dîner, il est 21h30. D'emblée, Karim lui lance « Matt, il y a une vidéo, c'est chaud. » À aucun moment, l'attaquant madrilène ne parle d'argent. Il dit qu'il a vu la vidéo et qu'il a un ami qui peut aider à la faire disparaître. Alors, ce qui s'est dit réellement entre les deux footballeurs, on ne sait pas exactement. Ce qui est sûr, c'est que Benzema appelle son ami Zenati après son entrevue avec Val Buena. Mais il est loin de se douter que son interlocuteur est sur écoute. Le 10 novembre, Europe 1 sort des extraits de la conversation. Qui a sorti ses écoutes en violant le secret de l'instruction ? On ne le sait pas. Mais il est certain que le but est d'enfoncer Karim Benzema. Le lendemain, le quotidien L'Équipe renchérit en publiant l'intégralité de l'écoute. Elle accable le joueur, en substance. C'est Benzema qui parle, en premier, Zenati lui répond, et ainsi de suite. Benzema donc. Vas-y, j'ai vu l'autre. Zenati, et alors ? Qu'est-ce que t'en penses ? J'en pense... Quoi, la vérité ? Ouais. Bah, j'en pense qu'il nous prend pas au sérieux. Ouais. Ça veut dire, en vérité, il va rien lâcher, celui-là, hein? Ah, je l'ai vu avaler de travers. Il commençait à avaler deux, trois fois de travers. Je lui dis, regarde, moi je m'en bats les couilles. Ah, ils vont lui pisser dessus, frère. Moi je m'embête, hein. Ah, les piranhas, ils vont le manger, frérot. Voilà. Ces propos vont choquer les Français. Et surtout l'un des principaux intéressés de l'affaire, Mathieu Valbuena, trahi par son coéquipier. Quelles étaient les intentions de Karim Benzema? Cette question est sur toutes les lèvres.
L'amertume à travers la rétine de mes yeux. Parmi les victimes du système, je suis le narrateur du pourquoi. Ce mode de vie, on en connaît tous la cause, mais bon voilà quoi. Faut faire quelque chose pour nos rejetons. Et si je t'en parle, parce que nos mères ont les jetons. Avis à la génération bouton, 10 à la vingtaine, tourne le bouton. Prête attention au message, très important. Considère ces informations comme une alerte. Toi qui es en pleine formation, avant que mon pouce soit déclaré inerte, qui m'incombe d'éviter de courir droit à ta perte. On se met blessé d'illusion, la plaie bien ouverte. En plus de la télévision et l'influence que porte le mauvais exemple. Sur bitume l'engrenage est de plus en plus ample. Mais qui est l'exemple? Et celui qui s'instruise détruit en séjournant en tôle en faisant du mal à autrui. Mais qui est l'exemple? Celle qui s'instruise détruit en pensant qu'à se divertir de mec et de boîte de nuit. À tous les grands frères, toutes les grandes sœurs, servons de modèle à nos petits frères, à nos petites sœurs, rof, l'avertisseur. J'ai fait des conneries de grande envergure, mais faut bien qu'on change un jour, même si c'est hyper dur. C'est de l'endroit chemin, trace ta route, ne te retourne pas. Chacun sa chance, pour certains la roue ne tourne pas. Ne fume pas, ne saoule pas. Pour ta maman et ton avenir, va à l'école, ne déconne pas, ne traîne pas. Rien à gratter à part des problèmes d'argent sale et d'embrouille qui devient écrite à la haine. Car on n'a plus que des bêtes féroces comme aliens. Croisant mon expérience, je suis la philosophie de la haine. Y'a pas de destin commun, fille ou garçon. Nous sommes les parents de demain. Chant l'attention du bon exemple, faut s'identifier. Faut se méfier du moraliste d'un jour. Une fois contaminé, on devient sourd. Quand le fait-il est croqué, c'est par couverture. Combien d'années dure la vie d'un voyou, un monde se faire condamner. On donne des bons conseils aux nouvelles générations, tandis que les cons essayent de troubler nos opérations. Chacune de mes phrases coûte cher. Si je te raconte de la merde, ça peut te coûter très cher. Je compte pas passer ma vie sur le béton. Faire des gosses, les voir béton. Pour quelques bâtons, à coups de bâton, leur expliquer les spétons. Ouais. On s'instruise, détruite. Tu vois ces journées en tôle, on sent du mal à autrui. Mais qui est l'exemple? Et celle qui s'instruise, détruite. En pensant qu'à se divertir de mecs et de boîtes de nuit. Hein? Qui? Mais qui est l'exemple? Qui? Qui? Hein? Qui est l'exemple?
Le 27 novembre 2015, l'affaire de la sextape rebondit. Le quotidien Le Monde publie dans ses colonnes une interview de Mathieu Valbuena qui accable Benzema.
Moi, je respecte tout le monde, mais là, j'ai l'impression de me faire prendre pour un con. À un moment, je ne peux pas défendre l'indéfendable. Même à mon pire ennemi, je ne ferai pas ça. Je ne peux être que très 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 déçu et constater que la relation avec Karim... elle n'est pas aussi sincère qu'il pouvait peut-être le prétendre.
Pour Karim Benzema et son clan, c'est le début d'une course contre la montre, car il est impensable de manquer l'euro, évidemment. Tout comme pour Mathieu Valbuena, d'ailleurs. Rappelons que ce sont deux joueurs du 11 type de Didier Deschamps, des titulaires, des cadres de l'équipe. La bataille est à la fois juridique et médiatique. Et vu le grand déballage dans la presse, Karim Benzema s'exprime et accorde une interview sur TF1.
C'est de l'acharnement, il n'y a rien d'autre à rajouter, je dirais. Parce que là, on m'accuse, on me traîne dans la boue, comme si j'étais un criminel. C'est des choses horribles. Ce qui se passe, c'est simple. J'entends qu'il y a une vidéo qui tourne sur lui, donc je viens le mettre au courant. Je lui dis que je pouvais l'aider. Moi, je lui dis que j'ai déjà eu affaire à des histoires comme ça, et que moi, j'ai prévenu la police. Donc voilà, lui, il me dit qu'il a prévenu la police. Donc après, que j'entende que j'ai fait du chantage... que je lui ai demandé de l'argent. Ça me rend fou, en fait. Parce que ça n'a rien à voir. Parce que Dieu merci, je gagne bien ma vie et ça fait longtemps. Et quand je rends un service, j'attends rien en retour.
Une semaine plus tard, le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, annonce Karim Benzema n'est plus sélectionnable jusqu'à ce que la situation évolue, jusqu'à ce qu'il y ait du nouveau dans le dossier. Le joueur annonce sur Twitter qu'il respecte cette décision. En même temps, il n'y a pas de match d'ici mars. Cela laisse le temps de la voir arriver, cette évolution judiciaire. En janvier, Noël Le Graët confie à un journaliste de l'équipe qu'il reçoit de nombreuses lettres racistes demandant l'exclusion de Karim Benzema.
On a l'impression tout d'un coup, parce que j'aime bien Benzema, que je deviens quelqu'un de malhonnête, de mal élevé. Il faut quoi ? Il faut dire à mort l'arabe ? Qu'est-ce que c'est tous ces gens qui m'écrivent là, où je vois fait Benzema dehors ? Certainement pas. Je gère cette affaire comme je l'entends.
La formule est forte, c'est d'ailleurs sur le terrain du racisme que le clan Benzema va organiser sa défense, quitte à mettre le feu aux poudres. Le vendredi 11 mars 2016, le contrôle judiciaire est levé pour Benzema. Il peut désormais et de nouveau voir Valbuena et donc jouer à ses côtés. 4 jours plus tard, le Premier ministre Manuel Valls est invité à s'exprimer sur RMC à propos de l'affaire.
Je pense que les réunions, les conditions aujourd'hui ne sont pas réunies pour que Karim Benzema vienne dans l'équipe de France. Il est toujours mis en examen. Et puis, on sent bien qu'il y a eu quelque chose. Bon, en même temps, c'est la décision de la Fédération française de football et du sélectionneur. Mais attention, l'exemplarité. Je me rappelle ce qui s'est passé il y a quelques années avec l'équipe de France en Afrique du Sud. Il y a eu beaucoup de mal à sortir de cette période. C'est notre patrimoine.
C'est la deuxième fois que Manuel Valls s'exprime publiquement pour s'opposer au retour de l'attaquant madrilène en évoquant l'exemplarité. Karim Benzema lui répond directement sur Twitter.
12 saisons que je suis professionnel. 541 matchs joués, 0 carton rouge, 11 cartons jaunes. Et certains parlent de mon exemplarité. 15 mars 2016.
Karim Benzema n'a pas besoin des médias pour s'exprimer. Un tweet suffit. C'est l'un des Français les plus suivis sur les réseaux sociaux. Le 13 avril 2016, Karim Benzema grille la politesse à tous les médias et annonce lui-même, sur Twitter bien sûr, une nouvelle qui lui brise le cœur.
Malheureusement pour moi et pour tous ceux qui m'ont toujours soutenu et supporté, je ne serai pas sélectionné pour notre Euro en France. 13 avril 2016.
Alors que Noël Le Graët, président de la FFF, et Didier Deschamps, le sélectionneur, semblait défendre le joueur, il est écarté du groupe. Un mois plus tôt, l'équipe faisait sa une avec une phrase de Deschamps à propos de Benzema. Tous les pays nous l'envient. Le sélectionneur développe dans l'interview et dit « Vous n'êtes pas attaquant du Real pendant 5 ans avec Mourinho, Ancelotti, Reinitez ou Zidane comme ça. » Alors, que s'est-il passé ? Didier Deschamps, qui a sondé la vie des autres joueurs tricolores, a-t-il voulu préserver son groupe de certaines tensions ou s'agit-il d'une raison extra-sportive ? Échaudé par le fiasco de Kingsta en 2010 et les différentes affaires qui ont terni l'image des Bleus, la Fédération française de foot a-t-elle voulu éviter toute polémique avant cet Euro organisé en France ? Les différents sondages hostiles à Karim Benzema publiés dans la presse ont-ils également joué un rôle ? Tout est possible. Toujours est-il que la polémique reprend un peu plus d'un mois plus tard, avec un missile envoyé par un ancien attaquant des Bleus qui n'a pas sa langue dans sa poche, un certain Eric Cantona. Il déclare le 26 mai dans une interview au Guardian.
Benzema est un grand joueur. Ben Arfa est un grand joueur. Mais Deschamps, il a un nom très français. Peut-être qu'il est le seul en France à avoir un nom vraiment français. Personne dans sa famille n'est mélangé avec quelqu'un. Vous savez, comme les Mormons en Amérique. Je ne suis pas surpris qu'il ait utilisé la situation de Benzema pour ne pas le prendre. Surtout après que Manuel Valls ait dit qu'il ne devrait pas jouer pour la France. Ben Arfa est peut-être le meilleur joueur en France aujourd'hui, mais il a des origines. Je suis autorisé à m'interroger à propos de ça. Une chose est sûre, Benzema et Ben Arfa sont deux des meilleurs joueurs français et ne seront pas à l'Euro. Et pour sûr, Benzema et Ben Arfa ont des origines nord-africaines. Donc, le débat est ouvert.
4 jours plus tard, c'est l'humoriste Jamel Debbouze qui en rajoute une couche dans les colonnes de France Football.
Benzema est l'un des meilleurs attaquants du monde. Ben Arfa, lui, est le meilleur joueur français de la saison en Ligue 1. C'est incontestable, tout le monde l'a vu. Il n'a pas sa place en réserve. Ces gamins représentent en plus tellement de choses, notamment en banlieue. N'avoir aucun de nos représentants en équipe de France, quand on vient des quartiers, on a une mécanique qui nous est propre. Avec un mélange de joie, de frustration et d'envie, on veut bouffer la terre entière, mais avec nos potes et notre famille. Tant qu'on ne permet pas aux quartiers d'évoluer, qu'on ne fera pas des Silicon Valley, qu'on ne leur permettra pas de s'épanouir humainement, socialement et économiquement, on leur en voudra toujours d'être ce qu'ils sont. Karim Benzema et par extension Atem Ben Arfa payent la situation sociale de la France d'aujourd'hui.
Mais c'est Karim Benzema et son clan qui mettent le feu aux poudres avec une interview accordée au quotidien sportif espagnol Marca. On peut y lire. Didier Deschamps a cédé à la pression d'une partie raciste de la France. Karim Benzema ajoute qu'en France, un parti extrémiste, le Front National, est arrivé en seconde position lors des deux dernières élections. Voilà, la bombe est lâchée. Après cette déclaration fracassante, toute la société réagit. Le débat est clivant. Une chose est certaine, accuser Didier Deschamps de raciste n'a aucun sens. Mais quelques jours après l'interview de Karim Benzema, la maison familiale du sélectionneur des Bleus est taguée de l'inscription « raciste ». Une blessure profonde qui ne s'est peut-être pas encore aujourd'hui refermée. Karim Benzema n'a pas traité Didier Deschamps de raciste et on peut même se demander si c'est lui qui a eu l'idée de cette interview ou bien ses proches conseillers, en tout cas une erreur de communication, c'est certain. Affaire sensible consacrée aujourd'hui à l'affaire des sextapes dont nous allons parler avec notre invité Rémi Dupré. Bonjour.
Bonjour.
Journaliste au journal Le Monde. Alors après 10 ans au service des sports, donc vous connaissez très bien le football, vous êtes désormais au service investigation des infos gênées du Monde et vous avez suivi le procès de l'affaire dite de la sextape. Alors cette audience, comment ça s'est passé? Quelles étaient les positions de chaque partie? Valbuena était là, Benzema lui ne s'est pas présenté. Hein.
Alors cette audience, elle a été marquée par l'absence de Benzema qui, en raison d'un calendrier sportif bien chargé évidemment, ne s'est pas rendu au tribunal correctionnel de Versailles. J'imagine que en dessous finalement de cet enjeu sportif, purement sportif, il y avait aussi un enjeu d'image. Évidemment, ces avocats avaient beau jeu de dire à l'audience qu'ils n'étaient pas là pour des raisons purement sportives. Et à côté de ça, on a eu cette impression dans l'audience, et je pense que la plupart des journalistes présents ont partagé ce sentiment, c'est qu'il y avait un vrai clivage entre des finalement les maîtres chanteurs présumés, hein, Axel Angot, Mustapha Zouaoui, qui jouent leur peau hein, très clairement, puisque ils sont là pour éviter d'être en prison, hein, très clairement. Et d'un autre côté, Mathieu Valbuena, la victime, défendu par une sommité du barreau, Maître Iwens, et évidemment Karim Benzema, qui n'était pas là, défendu par Maître Vey, notamment un autre ténor du barreau. Donc c'était très intéressant de voir ce gouffre-là entre les différents protagonistes.
Et alors, qui vous a marqué dans l'expression de ces protagonistes, ces prévenus?
Alors, tout d'abord, il y a effectivement Mustapha Zouaoui, qui est le cerveau présumé, finalement, dans cette affaire, selon le parquet de Versailles. C'est un vrai jeu de dupes, finalement, ce procès. On ment, on a des versions à géométrie variable. Qui savait? Est-ce que, finalement, Karim Benzema a été manipulé par ses maîtres chanteurs, par extension? Sous-entendu, est-ce que Karim Zenati, son ami d'enfance, a été lui-même manipulé par les maîtres chanteurs présumés? Donc on a eu le droit quand même à un certain nombre d'échanges assez gratinés, assez burlesques par certains aspects, et puis ça a donné finalement un reflet de ce qu'était le milieu un peu interlope du football, avec des prévenus qui sont dans le giron des joueurs, dans le microcosme du ballon, et qui essayent d'attraper un peu la lumière dans un milieu où ils n'arriveront jamais à être quelqu'un quelque part.
C'est un peu des kiniklés aussi, ils essayent du côté, ils tentent plusieurs pistes, hein, Djibril Cissé, un corbeau, puis Karim Benzema, enfin, c'est sans foi ni loi de vivre, comme vous dites, c'est des kiniklés quoi, c'est des pauvres types quand même.
Le terme est adéquat, je pense, ce sont des kiniklés, ils sont passés évidemment par Djibril Cissé, qui avait été victime par le passé d'une tentative de chantage similaire à la sextape, pour ensuite se tourner vers Younes Ouass, qui n'a pas réussi non plus, et finalement ils sont tournés vers Karim Zenati, un ami de Karim Benzema, puisqu'avec Karim Benzema, il touchait le gros lot quelque part, c'était le Graal.
Gros poisson quoi.
À Clairefontaine, quartier général de l'équipe de France, on ne pouvait pas faire plus proche.
Alors qu'est-ce qu'on a compris? Je veux dire, est-ce que cette affaire, le procès a permis vraiment d'éclairer l'affaire? En principe, c'est ce qui se passe, mais pas toujours.
Eh ben pas du tout.
Ah ben voilà, comme ça c'est clair.
On est finalement dans un espèce de jeu de dupes où les versions se croisent. La police, les enquêteurs ont intercepté un certain nombre de conversations téléphoniques et finalement, quels sont les smoking guns présumés? Ce sont les conversations entre Karim Benzema et Karim Zenati, quand Benzema raconte à Zenati la conversation qu'il a eue dans cette fameuse chambre de Clairefontaine avec Mathieu Valbuena, et d'autres interceptions téléphoniques. Donc finalement, on croise les versions des uns des autres, mais les avocats de Karim Benzema ont beau jeu de dire, mais on ne peut pas objectiver finalement Karim Benzema voulait du mal à Mathieu Valbuena. Donc c'est très compliqué de savoir ce qui va en sortir.
Et l'attitude de Valbuena pendant le procès?
Alors il a rappelé quelque chose d'important dans cette affaire, c'est qu'il est la victime. Hein. Il a eu le droit à la double peine, hein, Mathieu Valbuena. C'est-à-dire en 2015, on est en novembre 2015, il est l'un des cadres de Didier Deschamps, et quand cette affaire éclate, cette affaire de chantage, il est écarté de facto de la sélection. Didier Deschamps dit à l'époque, on va le faire souffler psychologiquement, il n'est pas en état. Et il ne reviendra jamais en équipe de France, il ne disputera pas l'Euro 2016. Et finalement, Mathieu Valbuena, pendant un jour et demi d'audience où il était présent, a rappelé à 37 ans, 6 ans après les faits, qu'il était bel et bien la victime.
D'ailleurs, on va écouter, bon, il dit la même chose que vous, mais c'est intéressant d'avoir plusieurs voix. On va écouter Mohamed Bouafsi, notre confrère, qui dans le magazine Complément d'enquête, intitulé « Sexe, arnaque et vidéo, les nouveaux maîtres chanteurs », diffusé sur France 2, c'était le 14 octobre dernier, eh bien, il explique comment la vie de Mathieu Valbuena a été, effectivement, sérieusement perturbée par cette affaire de sextape.
Mathieu Valbuena a eu des conséquences
terrible sur sa vie, terrible. Il s'est séparé de sa femme, il a des enfants, il se fait insulter en France, ses réseaux sociaux, ça se passe très mal. Pour une partie des fans du football français, Mathieu Valbuena est celui qui a empêché Karim Benzema de rester en équipe de France. Donc il le vit très mal, Mathieu Valbuena. Mais en revanche, Karim Benzema, il est plus en équipe de France, mais c'est la star du Real Madrid. Donc en gros, il joue, il est titulaire, il ne subit pas les conséquences néfastes de cette affaire. Alors que Mathieu Valbuena, lui, le vit comme « je suis victime » et pourtant c'est moi qui prends toute la merde dans la gueule.
Vous partagez, j'imagine?
Oui, à 200%.
Ouais. Ah ouais. Quelle histoire quand même pour ce petit bonhomme là, ce footballeur qui était un bon footballeur aussi d'ailleurs.
Il a 37 ans, il joue à l'Olympiakos, exactement à l'Olympiakos en Grèce, mais il y a eu un avant et un après à faire et forcément. Effectivement, c'est ce qu'il a essayé de faire comprendre au public et au juge avant tout.
Alors l'autre question dans cette affaire, c'est pourquoi Benzema accepte d'entrer dans cette histoire. Vous avez parlé des circonstances, mais pourquoi il accepte?
C'est toute la question. Selon Karim Zenati, c'était finalement demander un service à un ami, hein, un ami d'enfance, pour rendre service lui-même au maître chanteur avec qui il avait une relation commerciale. Évidemment, quand on se met dans la tête de Karim Benzema, il n'a pas besoin d'argent. C'est difficile de connaître le mobile s'il y a eu infraction pénale. Et donc, on pourrait éventuellement se dire qu'il a voulu lui rendre service à son ami pour quelque part jouer le rôle d'intermédiaire. Avait-il conscience à ce moment-là qu'il pouvait éventuellement commettre une infraction pénale? Il n'était pas à l'audience, donc on ne saura jamais.
Ouais. Enfin, il aurait pu penser quand même qu'il mettait les pieds dans quelque chose de pas clair.
Cette affaire, elle
révèle... évidemment, mais on peut se poser la question.
Cette affaire, elle révèle finalement les relations de confiance qu'ont les grands joueurs, les grandes stars avec leur ami d'enfance, avec le clan. Et finalement, ça révèle beaucoup de choses de Karim Benzema. C'est quelqu'un qui est fidèle à ses amis d'enfance. Il faut pas oublier qu'en 2015, quand l'affaire éclate, Karim Zenati est salarié de Karim Benzema. Il travaille pour sa société, qui gère notamment ses droits marketing. Il, on va dire, gère aussi un certain nombre d'actions caritatives avec des associations. Donc, Karim Zenati, c'est le prototype de l'entourage du joueur qui restera à la vie et à la mort. Et sans doute qu'il faut se plonger un peu dans l'enfance de Karim Benzema pour comprendre les tenants et les aboutissants.
Alors, rappelons le contexte. Nous sommes juste après les attentats de novembre 2015, puisqu'on est là en début 2016. Il y a des élections régionales en décembre, avec la montée du Front National. Tout le monde s'empare de cette affaire, y compris le Premier ministre Manuel Valls, oui, qui va s'exprimer sur cette affaire des sextapes. Est-ce que ça va porter préjudice à Benzema? Est-ce que c'est ça vraiment qui le... C'est un peu l'estocade, quoi.
On est clairement dans une affaire d'État, hein. Ça remonte très très haut.
À la preuve, ouais.
D'ailleurs, François Hollande le dit à ses ministres, arrêtez vos conneries, très clairement à l'époque. Il s'agit effectivement, les mots reviennent, exemplarité, est-ce qu'un joueur mis en examen peut être sélectionné? Manuel Valls y va de sa sortie, Patrick Kanner, alors ministre des Sports, y va aussi. On se souvient à l'époque de Marine Le Pen, qui instrumentalise effectivement politiquement cette affaire en reprochant à Karim Benzema de ne pas chanter la Marseillaise. Ça va très très loin. Et effectivement, Karim Benzema, pris dans cette tenaille politique, est défendu à l'époque, on l'a oublié peut-être, par Maître Dupond-Moretti, qui s'élève à l'époque contre l'instrumentalisation politique. Karim Benzema dotera quand même le bâton pour se faire battre en juin 2016, puisqu'il déclarera au journal espagnol Marca que Didier Deschamps a cédé à une partie, sous la pression d'une partie raciste de la France, qui va lui porter préjudice.
Je me souviens de ça. Oui, ça a été une dimension de malaise. Hein. C'est cette histoire de racisme, il n'aurait pas pris parce que voilà, c'est un réflexe raciste. On est allé jusque-là quand même. Hein.
Et on se souvient qu'à l'époque, la maison secondaire en Bretagne des Deschamps, du couple Deschamps, est taguée. Le mot raciste est tagué sur le mur. Et ça, Didier Deschamps en voudra énormément à Karim Benzema et ça durera quelques années, j'imagine, jusqu'à son retour.
Voilà, le retour dont on va parler juste après avoir écouté Jacques, qui nous chante La vie de tous les jours.
Affaires sensibles sur France Inter.
Dans la vie de tous les jours, il n'y a rien à célébrer. Chaque chose qui se passe ne fait pas un souvenir. Les sourires sont au repos, chacun fait ce qu'il doit faire. C'est pas comme sur les réseaux. Dans la vie de tous les jours, ouais, la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, c'est la vie de tous les jours. vie de tous les jours, il n'y a rien à signaler. Les voisins se disent bonjour et les chiens se laissent promener. Je suis content quand il se passe rien, au moins il se passe rien de mal. C'est pas ce qu'on voit aux infos, c'est la vie de tous les jours. Ouais, la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours. Les choses qu'on fait tous les jours n'ont pas vraiment d'intérêt. Mais en vrai, n'a-t-on pas intérêt à faire ce qu'on fait? Au fond, je sais, mais chaque fois j'oublie. Il n'y a rien de plus vital que le vide de tous les jours.
De cette affaire sextape et de Benzema. Je crois qu'on a fait à peu près le tour de l'affaire sextape. Parlons de Benzema et de cette résurrection malgré l'affaire, comme quoi on n'est jamais fini en football. Et tant mieux pour Benzema. Que pensez-vous de ce que j'appelle cette résurrection? Il brille au Real de Madrid, il brille avec l'équipe de France, tout le monde lui fait confiance. Peut-être même qu'il est un candidat pour le Ballon d'Or qui sera décerné le 29 novembre, hein, c'est ça?
Exactement. Alors, il est au sommet de sa carrière, Karim Benzema, 34 ans. On est là sur une... Ça fait 12 ans qu'il est au Real de Madrid. Un retour réussi chez les Bleus, hein. 4 buts à l'Euro, 2 buts en Ligue des Nations. Accueilli, on va dire vraiment de manière très positive par ses coéquipiers. On a senti un joueur mature, qui avait mûri, un grand professionnel. Et donc, effectivement, il se pose aujourd'hui les meilleurs buteurs du championnat d'Espagne à ce jour. Et on peut considérer qu'il est l'un des favoris pour le Ballon d'Or. Donc, on connaîtra le lauréat le 29 novembre.
Alors, Noël Legret, connu comme le loup blanc dans le football et même au-delà du football, puisqu'il est le président de la Fédération française de foot. Ça fait une éternité qu'il est dans les instances dirigeantes du football. Il était à la Ligue avant, je crois.
Exactement.
Alors, on le connaît depuis 30 ans. Bref, c'est un vrai politique, hein, à ce niveau-là. Ce sont des politiques, quasiment, quand on sait à quel point le football est puissant. Voilà ce qu'il dit. Donc, le jugement arrive le 24 novembre. On est bien d'accord. Et il dit, si Benzema est condamné, il doit rester quand même en équipe de France. Bien, je suis pas sûr que ça va bien passer cette déclaration.
C'est du Noël Legret.
C'était
prévisible, c'est très pragmatique. Karim Benzema a été mis au banc pendant 5 ans et demi. D'ailleurs, c'est tout le paradoxe de la situation. Il revient en équipe de France en juin 2021. Il est mis en examen présumé innocent. Et finalement, aujourd'hui, le président de la Fédération française de foot dit qu'il peut revenir même s'il est condamné. Évidemment, il va faire appel. Donc, on peut considérer que jusqu'à ce que le jugement en appel ait lieu, la Coupe du Monde au Qatar aura lieu, sans doute la dernière compétition de Karim Benzema. Mais là, on a un duo Deschamps-Legret très pragmatique. Et donc, évidemment, il y a eu aussi par le passé Karabatic au handball.
Oui, bien sûr.
On savait exactement, quand il a été condamné, qu'il ne serait pas suspendu en équipe de France. Et ben, c'est exactement le même cas en football. Et on pouvait s'attendre à ce genre de décision.
Oui, alors, je ne suis pas sûr que ça choque le monde du football, les supporters, si Benzema est condamné, qu'il joue quand même en équipe de France. Et, alors, c'est toujours le même problème. Il y a d'un côté la morale, il y a la morale civique, bien sûr, il y a la justice, et puis de l'autre côté, il y a les enjeux du football. Et on sait à quel point les enjeux du football dépassent les enjeux du sport.
Oui, le football est un sport très politique, avec beaucoup d'argent généré, et comme vous le dites très bien, on oublie tout dans le football. Et effectivement, il est au sommet de sa carrière. Pourquoi se passer de Karim Benzema à ce moment-là? Ça serait quasiment une faute du sélectionneur aujourd'hui de se passer de lui. Donc, que le sélectionneur ait promulgué une charte éthique en 2013, que l'effet ait eu lieu à Clairefontaine, au quartier général, avec un coéquipier de l'équipe de France, toute cette symbolique-là est balayée complètement par les enjeux du football.
Il nous reste quelques minutes, Rémi Dupré. On parle foot un peu.
Très bien.
Hein, puisque vous êtes journaliste sportif, vous n'êtes plus au service des sports, mais on est toujours passionné de sport quand on a passé des années au service des sports. Bien. Alors la grande question que tout le monde se pose cette année, après l'arrivée de Messi, dont on a raconté l'histoire avant-hier, mercredi, la question qu'on se pose, c'est est-ce que le Paris Saint-Germain va enfin soulever la coupe aux grandes oreilles, la Ligue des Champions, maintenant qu'il a acheté Messi après avoir acheté quasiment tous les autres. Il en reste à acheter, il y a des Haaland qui traînent partout. Bon, et on se dit que finalement, l'achat de Messi par le PSG est un peu dangereux, une arme à double tranchant, parce que si le PSG ne remporte pas la Ligue des Champions, ça va commencer à être un peu la risée de l'Europe. Hein. Je suis un peu dur, j'avoue, mais enfin bon.
Je pense que les dirigeants qataris n'ont pas le choix, en fait. Ils doivent gagner la Ligue des Champions dès cette année.
Mais ça ne gagne pas.
La Coupe du Monde au Qatar aura lieu en décembre 2022. On sait très bien pourquoi ils ont acheté Lionel Messi. C'était pour finalement que Lionel Messi soit l'espèce de paravent de la diplomatie sportive du Qatar. Donc évidemment, qui dit Messi au PSG, dit victoire en Ligue des Champions au mois de mai 2022, avant la Coupe du Monde. Donc ce scénario rêvé, s'il n'a pas lieu, je pense que les dirigeants parisiens auront du souci à se faire quand on regarde notamment la qualité de leur effectif.
D'autant que traîne sur la route des Parisiens, notamment le Bayern Munich, alors qui est totalement effrayant, énorme équipe, magnifique, qui a marqué, je crois, plus de quasiment 40 buts depuis le début de la saison. C'est un truc de fou. Hein. Ils ont perdu de un accident il n'y a pas longtemps devant Mönchengladbach. Ils ont perdu 5-0, je crois. Mais ils gagnent tous leurs matchs, au moins avec 5 buts. Qu'est-ce que c'est que cette équipe?
C'est un rouleau compresseur.
Ah, incroyable.
Un vrai rouleau compresseur. Les Parisiens s'en souviennent, puis ils ont perdu en finale de Ligue des Champions en 2020, face à un Bayern plus expérimenté, et un Bayern emmené par un Lewandowski, candidat au Ballon d'Or, concurrent de Karim Benzema, 33 ans, au sommet de sa carrière.
Bien sûr.
Et donc, on peut s'attendre à une adversité assez élevée, un concurrent sérieux pour le Paris Saint-Germain cette saison.
Bien, merci infiniment Rémi Dupré. Ça fait plaisir un peu de parler foot après avoir parlé des affaires dans le foot, n'est-ce pas? Merci, au revoir.
Merci.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Sextape dans le football, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. Merci à Rémi Sistiaga et Ludovic Asselot qui étaient à la technique aujourd'hui. Et puisque nous sommes vendredi, j'en profite pour remercier l'équipe qui a préparé les affaires sensibles de cette semaine. Attachée de production Rebecca de Nantes, programmation musicale Muriel Pérez et Valentine Chedebois, lecture Aurélien Labruyère, coordination Christophe Barrère, récit documentaire Jean Bulot, Constance Villanova, Stéphanie Fromentin et Adrien Mora, réalisation Marion Lelay, Flora Bernard et Lauriane Toulmont.